aux frères, aux sœurs qui nous rejoignent maintenant. Et ensemble, nous formons une seule famille, un seul corps, une famille qui reçoit le chef de famille, le chef de l'Église, le Seigneur. Il a des choses à nous dire, à nous apprendre. On ne sait pas tout, mais nous avons vu les événements de ce week-end à Paris. Nous avons vu à quel point nous entrons tout doucement dans un temps d'extrême violence, de barbare. Ça nous surprend, ça nous étonne. Mais je pense que ça doit être pour nous l'occasion de resserrer davantage les liens de famille, les liens de l'Église, de resserrer davantage notre communion, parce que nous ne savons pas la suite, quelles conséquences il y aura sur les églises, sur le travail, sur l'économie en France. Et puis, la charité du plus grand nombre se refroidit ainsi. Vous savez, quand on vit ces choses-là, on est entraîné dans ce cercle de tension, de violence, de suspicion, de doute. On se méfie les uns des autres. Et là, on entre dans ce temps difficile. Alors, je voudrais vous reparler encore à partir d'un texte de l'épître de Jean, la première épître de Jean, vous parler sur l'amour fraternel. Parce que c'est la charpente de l'Église qui va nous permettre de tenir sous les coups de vent que nous avons aujourd'hui. 1 Jean, chapitre 3, verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans notre cœur, qu'elle produise son fruit, son effet, sa joie, son élévation, sa purification. Bénis-nous dans ce temps difficile. Nous t'en prions, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, dès le commencement de l'Évangile, dès le commencement du ministère de Jésus, il a été question dans les apôtres de l'amour. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et ce qui est dès le commencement doit être au commencement de chaque église, de chaque vie chrétienne. Et au commencement de chaque vie chrétienne, bien sûr, il faut la vérité, mais pas de vérité sans amour. Certains préfèrent la vérité, d'autres préfèrent l'amour. Il faut prendre les deux. Mais il faut toujours apprendre de Dieu et nous apprendre par la stimulation, l'encouragement, l'exhortation, apprendre à nous aimer. C'est la preuve, l'amour, que nous sommes chrétiens, que nous sommes passés de la mort à la vie, que nous nous sommes convertis, que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et cet amour-là, à la fin des temps que nous vivons, il sera comme une charpente qui tiendra l'Église par la grâce du Saint-Esprit. Nous devons revenir à cela et entre nous vivre davantage de proximité, d'attention, d'encouragement, de gentillesse, de douceur, de fraternité. Nous devons nous aimer les uns les autres. Vous avez vu le verset 11, ce que nous avons entendu de la part de Jésus, nous devons nous aimer les uns les autres. Devoir, c'est un ordre. On n'aime pas trop qu'on nous parle de commandement, d'ordre avec l'amour. Parce qu'on dit l'amour doit être spontané, naturel. L'amour n'est pas, l'amour fraternel n'est pas de l'émotion, n'est pas un sentiment, c'est un commandement de Dieu. L'amour fraternel, c'est un ordre de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres. L'amour fraternel, ce n'est pas une émotion, c'est un engagement. Ce n'est pas une émotion, c'est une alliance. Quand on devient chrétien, on devient frère et sœur des autres. Donc on est pris dans une alliance, dans un engrenage, pour nous aimer les uns les autres. Donc nous devons, nous pouvons le faire puisque la Bible dit, puisque nous sommes nés de Dieu. C'est-à-dire nous avons reçu la vie de Dieu en nous, la capacité d'aimer comme Dieu l'a. Avec cette capacité d'aimer, nous pouvons et nous devons nous aimer les uns les autres. Nous ne sommes pas sans ressources pour nous aimer. Dans la Bible, il est parlé souvent du baume de Galaad. Galaad, c'est la Galilée. Et là, il y avait, on travaillait certainement des plantes pour faire des baumes. Un baume, c'est ce qui soigne. Et je pense que nous avons un excellent baume dans l'Église qui nous vient du Saint-Esprit et qui permet de calmer des tensions de famille, des souffrances de couple, qui permet de calmer des souffrances parents-enfants. Je pense que ce baume, c'est notre amour. Alors, veillons sur cet amour, parce que, à cause de l'iniquité, dit Jésus, à cause de l'abondance du péché, de la violence aujourd'hui, la charité du plus grand nombre se refroidira. Cette charité, ce n'est pas la charité des païens, c'est la charité des chrétiens, le plus grand nombre. Nous perdrons cette faculté, ce réflexe de la charité. Donc nous devons apprendre à nous aimer. Et je pense que c'est en se fréquentant, en se croisant dans notre Église, en se regardant, en prêtant l'oreille aux appels qui viennent des frères et sœurs, que nous allons les découvrir et découvrir en nous peut-être un talent, un don du Saint-Esprit, le ministère du secours, le ministère de l'amour, le ministère du regard sur les autres. Regardez-vous les uns les autres. Puis ensuite, l'apôtre Jean, il dit ne ressemblez pas à Caïn. J'aurais préféré qu'il nous compare à quelqu'un d'autre, à Caïn, ce criminel, le premier criminel de l'histoire de l'humanité. Vous ne trouvez pas que c'est un peu choquant quand même? Je pense que l'apôtre Jean veut nous dire ce matin à travers « ne ressemblez pas à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère », il veut nous dire que si nous n'avons pas la charité qui grandit en nous, nous ne savons pas jusqu'où peuvent aller nos sentiments. Nous pouvons dévier du chemin, prendre un chemin de travers, et puis de plus en plus dévier, devenir plus dur, plus cassant, plus autoritaire, plus juge des autres. Alors, le chemin de Caïn n'a pas été un chemin brutal. Tout d'un coup, il s'est réveillé criminel. Tout doucement, son cœur est devenu jaloux. Ses œuvres étaient mauvaises. C'est ce que dit la Bible. Pourquoi tua-t-il son frère ? Parce que les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Cela veut dire que Caïn faisait des choses mal. Il avait des pensées mauvaises. Il avait des paroles mauvaises. Il avait des gestes mauvais. Et quand on pratique comme ça le mal, ce mal contamine notre pensée. Ce mal pourrit notre esprit. Et nous devenons ainsi mauvais au fond du cœur. Nos actes déteignent sur nous. Nos actes nous pourrissent notre âme et nous sommes devant Dieu, sales, cassés. Alors, ne ressemblez pas à Caïn qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Eh bien, je pense, frères et sœurs, que nous devons réfléchir à cela. Vous savez que quand nous allons mourir, il y aura un premier jugement. Un premier jugement, parce que après la mort vient le jugement. Et quand nous mourrons, nous rendrons des comptes sur ce que nous avons dit, nous avons fait, notre comportement envers les frères et les sœurs. Et puis ensuite, à la fin des temps, à la fin du monde, quand le Seigneur paraîtra sur son grand trône blanc, eh bien là, il y aura un autre jugement, le jugement dernier. Et là, il nous demandera des comptes sur qui ? Sur, non pas les choses, mais sur les frères et les sœurs, sur les fils, sur les frères du Christ, les sœurs du Christ. À qui nous n'avons pas rendu des services ? À qui nous avons peut-être oublié de visiter, de nourrir, d'abreuver, de guérir leur cœur ? Et le Seigneur nous dira, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses au plus petit de mes frères, c'est fraternel, on est dans un culte de la fraternité. Et toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Veillons parce que nous allons bientôt paraître devant le tribunal de Christ. Et toute bouche sera fermée et tout genou fléchira. Et nous ne pourrons pas revenir en arrière. Déjà aujourd'hui, vous ne pouvez pas revenir en arrière, même pas d'un jour, même pas d'une heure. Nous sommes en avant et nous devons nous utiliser les leçons d'aujourd'hui pour modifier le comportement de demain, parce que tout sera mis en lumière. La Bible dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés par le Seigneur. Et je pense que tant qu'on est sur la terre, c'est peut-être le moment de dire, mais qui suis-je devant le Seigneur ? Qu'est-ce que je fais pour les autres ? Si nous nous jugeons, se juger, ça veut dire si nous mettons à la lumière, dans la prière, pas devant les autres. Il faut de la pudeur dans nos prières par rapport à l'Église. Mais quand nous sommes devant Dieu, dans notre chambre, mettre en lumière, à la lumière de l'Évangile, ce que nous sommes. Et je pense que si nous nous jugeons, si nous disons « Seigneur, comme je suis lâche, comme je suis parfois pervers, comme j'ai menti, comme j'ai volé, triché, Seigneur, pardon. » Si nous nous jugeons, nous ne serons pas jugés par le Seigneur. Je préfère me juger moi-même. Je préfère tomber entre les mains, comme disait David, entre les mains des hommes. Non, David disait, je préfère tomber entre les mains de Dieu, c'est vrai. Parce qu'entre les mains de Dieu, il y a le pardon, il y a la récupération de la vie. Frères et sœurs, nous savons maintenant que nous allons vers un jugement, et qu'il est proche, et nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Frères et sœurs, ne vous étonnez pas, frères, il ne dit pas sœurs, mais on ne sépare jamais, on ne fait pas des épîtres pour les frères et des épîtres pour les sœurs, c'est pour tout le monde. Et quand il dit frères, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait, il veut dire ne vous étonnez pas, mes frères et mes sœurs, si le monde vous hait. Ce qui doit vous choquer, c'est plutôt la haine d'un frère envers un frère. Mais si le monde a de la haine pour vous, ne soyez pas choqués, ne soyez pas étonnés. C'est naturel. S'il m'a haï, moi, le maître de la maison, à plus forte raison, vous, il va vous haïr. Mais n'oubliez jamais que derrière la haine du monde, parce qu'aujourd'hui, je le vois dans mon ministère, je le ressens dans ce que je fais envers le monde, il y a quand même un recul de la foi. Il y a un repli. On ne veut pas entendre parler de Jésus, de l'Église même, de chrétiens, de Bible, d'Évangile. C'est plus compliqué qu'il y a quelques années. Alors, ce qui serait le plus étonnant, c'est surtout la haine du frère. Mais ne soyez pas surpris de la fermeture, de l'indifférence qu'il y a aujourd'hui dans le monde vis-à-vis de votre message. Mais cette haine contre l'Église, elle a un danger. Elle a un danger pervers. C'est qu'à force de critiquer, de fermer, de se fermer à l'appel de l'Église, ça pourrait, pas toujours, mais ça pourrait nous faire fermer la bouche. Et les événements d'hier, je me suis dit, quelle est la finalité de tout ça? Au bout du compte, quand on a fait tout le parcours des gilets jaunes et des violences, à quoi, à qui ça va servir? Pourquoi? Je vais vous le dire. Fermer la bouche de l'Église. Faire peur aux chrétiens pour qu'ils ne témoignent plus. Parce que la plus grande chose au monde, c'est le témoignage évangélique des chrétiens. Donc, le but final de tout, c'est quand le monde nous haine, se ferme à notre appel, c'est de nous faire peur et de nous faire penser, bon, ayons un témoignage par nos actes, bien sûr, il le faut, mais ne parlons pas. Témoignons par des belles actions, par des bonnes œuvres, mais ne parlons pas parce que nous sommes rejetés. Et si le diable arrive à ça, il sait que notre témoignage visible n'est pas suffisant. Il faut dire pourquoi nous ne mentons pas, pourquoi nous ne trichons pas, pourquoi nous sommes différents, pourquoi nous avons une espérance. Et si le diable arrive à nous faire peur jusqu'à ce que l'on ne parle plus, qu'on ne témoigne plus, je pense qu'il aura réussi. C'est pourquoi nous devons nous exciter, comme dit l'apôtre, à la charité, à l'amour fraternel, au pardon des blessures, à l'encouragement, à la prière ensemble. Nous devons travailler tout cela. Frères et sœurs, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. C'est étonnant parce que moi je suis passé de la mort à la vie par la foi. Pas parce que j'aime quelqu'un. Pas parce que j'aimais les chrétiens. Ce qui a fait ma conversion, c'est que j'ai eu la foi. Mais je sais que je suis passé dans la vie éternelle parce que j'aime l'Église. Je suis passé par la foi, mais j'ai la preuve que je suis chrétien parce que j'aime l'Église. Aimer l'Église, aimer ses frères et sœurs est une preuve que nous sommes au Christ, que nous sommes des chrétiens, que nous communiquons le Christ aux autres. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Ça doit faire peur, ça doit faire réfléchir. On a beau faire beaucoup de gesticulations, on a beau chanter, crier partout si vous voulez, mais n'oubliez pas la fine pointe de la Bible, de la vie chrétienne. C'est d'aimer son frère, c'est d'aimer sa sœur. Sinon, malgré tout ce que nous faisons, nous sommes dans la mort, nous restons morts, nous restons païens, nous restons dans la condamnation de Dieu. Nous ne sommes pas passés dans la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quiconque est son frère est un meurtrier. Parce que si on fait du mal à son frère, on ne se rend pas compte le mal que nous lui faisons. Et peut-être qu'en lui faisant du mal, on a touché une vocation qui est en lui. On a touché à sa foi. On a touché à sa vie d'espérance. On a touché au plus profond de son âme. Et ça l'a tué. Il ne vient plus. Il ne prie plus. On ne le rencontre plus. Il a perdu sa joie. En touchant un frère, vous ne savez pas tout le dégât que vous faites. En blessant une sœur, en ne regardant pas les gens. Vous ne connaissez pas la suite de tout ce qui peut se penser dans son cœur. Par exemple, je ne suis pas intéressante, personne ne me remarque, je suis seul avec mon chagrin. Il y en a qui passent à côté de moi et qui ne me voient pas. Et ça tue. Celui qui n'aime pas son frère, c'est un meurtrier. Il tue quelque part la foi, il tue la charité, il tue la prière dans la vie du frère. Eh bien, frères et sœurs, n'ayons pas cette responsabilité devant Dieu qui va nous prendre bientôt. Frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Voilà. Aimons-nous les uns les autres et faites attention aux autres. Essayez de mesurer la portée de vos paroles avant de les dire. Ça va ? Essayez de mesurer la portée de votre oui, de votre non, de votre repli, de votre indifférence. Essayez de mesurer vos gestes, vous les aimez, vous les pratiquez, mais quel effet ils ont sur les autres. Vous avez peut-être là des comportements qui ont choqué, qui ont blessé, peut-être familiaux, avec les enfants, dans votre travail, dans votre profession. Et vous avez blessé et vous n'avez pas réalisé que peut-être vous avez perdu une âme pour Christ, une âme pour laquelle Christ est mort. Frères et sœurs, que Dieu bénisse l'amitié fraternelle de l'Église. Amen. Que Dieu, dans sa bonté, nous bénisse. Nous avons un baume magnifique. Il y a beaucoup de plaies aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens blessés. Et ce baume, je pense que nous en avons assez pour les gens qui viendront cet après-midi, demain, dans l'avenir. Je pense qu'on a besoin de pratiquer la charité entre nous. On a besoin, vous savez, la famille, elle a sa puissance de guérison. L'Église, elle a sa puissance de guérison. La famille chrétienne, je m'entends, parce que nous avons au milieu de nous le Saint-Esprit. Et par cet Esprit, nous avons des capacités d'aimer, de soulager, de consoler, de guérir nos enfants, de guérir nos parents, notre femme blessée, notre mari peut-être en peine dans le travail. On a des capacités de guérison. Alors, mettons-nous au travail. Amen. Ce n'est pas un travail qui se fait sur un simple clic. Il faut reconnaître qu'il faut du temps. Quand mon médecin me donne un médicament, il dit « je vous le donne, mais demain matin c'est fini, vous êtes guéri ». Non, vous prendrez pendant 2 mois et on se reverra. Je pense qu'il faut parfois des mois pour guérir certaines blessures, certaines déceptions, certaines tristesses familiales et dans l'Église. Que le Seigneur bénisse l'Église. Amen. Je prie pour vous, frères et sœurs. Seigneur, à quel autre irions-nous ? Tu as les paroles qui nous font vivre. Et nous avons connu que tu es sorti de Dieu. Et nous voulons aussi apprendre à sortir de nous, à ne pas rester enfermés en nous, chez nous. Nous voulons apprendre à tendre nos mains et notre oreille aux autres. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous avons blessé, tué peut-être quelqu'un, où nous avons fermé notre cœur au fleuve d'amour que l'Esprit de Dieu met en nous. Seigneur, nous voulons que ce fleuve reprenne son cours. Nous voulons qu'il soit abondant. Nous voulons qu'il atteigne toutes les personnes de l'Église, que personne ne soit oublié de nos prières, de notre regard, de notre attention. Nous voulons vraiment tisser entre nous une Église fraternelle, joyeuse, solide, spirituelle, chrétienne. Merci Seigneur, et nous te prions de délivrer notre pays de ce vent de meurtre, de ce vent de barbarie, de ce vent de colère et de violence. Délivre-nous Seigneur. Amen. Quelques instants devant le Seigneur. Quelques instants pour encore méditer sur l'amour fraternel Ce que nous avons entendu, nos pères nous l'ont dit, c'est vrai depuis la venue de Jésus, nous devons. Ce n'est pas un luxe, nous devons nous aimer les uns les autres. Et je vous souhaite, mes frères et sœurs, de bien visiter votre âme. Ne laissez pas dans l'ombre de votre âme des colères, des jalousies, quelques haines peut-être. Ne laissez rien dans l'ombre, parce que ces ombres-là sont envahissantes. Elles sont destructrices. Habituons-nous à nous pardonner. Apprenons le pardon. Apprenons la rencontre. Les paroles, je ne dis pas agréables, mais c'est un peu le mot, les paroles qui sont remplies de grâce. Remplies de grâce. Les paroles qui font grâce. Paroles qui ne retiennent pas l'erreur, mais qui pardonnent. Que Dieu nous bénisse. Amen.